RFI Matin, suite et fin, on se quitte dans 18 minutes tout juste et ce sera l'heure du journal en ce vendredi matin où Reporters sans frontières publie son rapport annuel sur la liberté de la presse dans le monde, un recul global et les conséquences déjà lourdes, pas seulement aux États-Unis, des décisions de Donald Trump depuis son retour au pouvoir en janvier, on en parle à 8h, temps universel. À suivre d'ici là notamment Afrique Économie et l'Assemblée Générale cette semaine de l'APROCA, l'association des producteurs de coton africain, reportage à suivre de Charlotte Cosset. Mais tout de suite, c'est le journal des sports. Avec vous Antoine Grenier, en football, les Africains bien placés pour atteindre la finale de la Ligue Europa.
Amad Diallo notamment, mais Ousser Masraoui et Manchester United se sont en tout cas clairement positionnés après leur large succès 3-0 sur le terrain de l'Athletic Bilbao. Une demi-finale allée à sens unique, tout comme sur la pelouse de Tottenham avec le succès du Malien Yves Bissouma et des Spurs, 3-1 sur les Norvégiens de Bodø Glimt.
On termine, on continue avec la CAN U20 en Égypte avec les premiers matchs du groupe C.
Ah oui, c'est de ma faute, faut que je vous écrivent les trucs correctement. Avec le tenant du titre, le Sénégal qui affronte la République centrafricaine. Coup d'envoi 16h, temps universel, juste avant que la République démocratique du Congo ne se mesure au Ghana. Les Léopards U20 qui débutent la troisième CAN de leur histoire, mais qui sont un peu des épisodiques à ce niveau. En 1989 et en 2013, les Congolais n'ont jamais passé la phase de groupe. L'histoire est faite pour être changée, estime néanmoins le capitaine de la RDC, Samuel Tanda.
Pour nous, chaque adversaire est pareil, qu'il soit champion d'Afrique, qu'il ne soit pas champion d'Afrique, chaque adversaire est au même stade pour nous. On l'affrontera chaque match comme il faut l'affronter. Je pense pas qu'on n'ait pas de faveur de pronostic. Je sais que le public au Mali le soutient. On a vu énormément de messages, beaucoup de soutien. On les remercie pour ça. On tient à remercier aussi notre staff qui nous a toujours soutenus, qui nous a préparés à ça. Donc je pense qu'il n'y a aucune inquiétude à se faire. On reste confiant pour le match. Tout le monde a confiance en nous. Pas d'inquiétude. Le groupe vit extrêmement bien. Donc c'est un groupe qui se connaît déjà depuis longtemps. Pour la plupart, on n'était pas là aux qualifications de l'UNIFAC, mais on les a rejoints un peu plus tard. Et c'est un groupe vraiment qui vit extrêmement bien, avec une très bonne mentalité, une très bonne ambiance. Tout le monde s'aime, il y a une très bonne entraide. Donc on part confiant.
Samuel Tanda avec Olga Massangou hier, toujours dans cette CAN U20. Pour la première journée du groupe B, le Nigeria a dominé la Tunisie 1-0 au Caire et le Maroc s'est imposé sur le Kenya 3-2.
Et sur RFI, on continue de s'approcher de la remise du prix Marc-Vivien Foé.
Ça sera le lundi 12 mai. En attendant, on vous présente les différents nominés. Ils sont 12 et aujourd'hui, Achraf Hakimi avec Cédric de Oliveira.
Le Parc des Princes s'est habitué à scander son nom. Cette saison, Achraf Hakimi a notamment marqué face au PSV Eindhoven et Aston Villa en Ligue des Champions. Logique selon le défenseur marocain arrivé en 2021 au PSG qui est désormais un cadre de son équipe.
J'ai plus de responsabilités, je suis l'un des capitaines de l'équipe, je prends ce rôle à cœur, sur et en dehors du terrain. Si on a besoin de moi, je suis là.
Lorsque Marquinhos est absent, c'est à l'ancien madrilène que Luis Enrique confie le brassard de capitaine. Un entraîneur qui est ravi de pouvoir compter sur un latéral aussi complet.
Il est un peu meilleur sur le plan défensif, plus concentré et plus efficace. Il fait partie de ces jeunes joueurs qui ont de l'expérience, une référence pour ses coéquipiers. Je le vois encore plus mature. Je pense que c'est un joueur qui doit continuer à grandir.
Hakimi est donc un prétendant naturel au prix Marc-Vivien Foé. Eric Rabezandratana, consultant pour Radio Foot International, en a fait son favori.
Dans son comportement, il a la tête d'un gagnant. Dans ses performances sportives, dans son état d'esprit, dans son implication, c'est un autre Hakimi. Donc pour moi, il mérite 100 fois d'avoir ce titre. Aujourd'hui, il est incontestable pour moi.
Deuxième du classement l'an passé, le Marocain pourrait donc cette fois rafler le trophée. Il succéderait notamment à ses compatriotes Sofiane Boufal et Marouane Chamakh, premier lauréat en 2009.
Et Younes Belhanda est également couronné en 2012, prix Marc-Vivien Foé. Les finalistes de ce prix seront connus le 5 mai dans l'émission Radio Foot International, avant la révélation du grand vainqueur le 12.
Et un prochain portrait demain. Merci Antoine Grenier. Il a grandi en Centrafrique, traversé les guerres et choisi de répondre par la créativité. Dans notre reportage Afrique, rencontre ce matin avec Teddy Kosoko, 30 ans, qui a décidé d'utiliser l'Afrique, de représenter l'Afrique autrement grâce aux jeux vidéo. L'entrepreneur installé à Toulouse poursuit désormais un objectif plus vaste, celui de contribuer à bâtir un marché du jeu vidéo africain. Portrait d'un entrepreneur engagé rencontré à Marseille il y a quelques jours par Christina Okello.
La mission de Teddy Kosoko, reconnecter les Africains à leur histoire. Une ambition qui le pousse à créer Massacre Game Studio en 2018.
Alors déjà, Maseka dans ma langue natale, Sango, ça veut dire jeune, jeunesse. Et pour moi, Maseka, c'est le moyen pour moi de raconter l'Afrique. Raconter l'Afrique d'abord aux Africains, parce que la plupart des Africains ne connaissent pas le continent africain. Et ensuite, raconter l'Afrique au reste du monde pour que les gens puissent connaître l'Afrique au-delà de la colonisation et de l'esclavage qui colle aujourd'hui à la peau des Africains. On n'est pas que cela.
Ces jeux s'inspirent des cultures africaines. Kisoro, par exemple, révisite l'awale, ce jeu de stratégie traditionnelle pour en faire un outil de paix.
C'est un jeu avec des pions et des cases. À l'époque, le jeu Kisoro pour promouvoir la paix et raconter une histoire où deux royaumes vont utiliser le Kisoro comme un outil de paix pour résoudre un conflit millénaire.
La Centrafrique, à l'époque, est en guerre. Et Teddy Kosoko choisit la créativité comme arme politique. Le succès est au rendez-vous. Plus de 50 000 téléchargements. Puis vient la légende de Moulou, un jeu d'aventure pédagogique. Mais un problème persiste. Ces jeux se vendent partout, sauf en Afrique. Car les grandes plateformes comme Google Play imposent des cartes bancaires et empêchent les créateurs africains de vendre localement. Pour contourner ces blocages, Teddy Kosoko lance Gara, une boutique en ligne pensée pour l'Afrique. Elle centralise les contenus et utilise le mobile money pour simplifier l'achat.
J'ai 100 francs CFA. Tout le monde a 100 francs CFA. Et je mets mes 100 francs CFA, je paye et j'ai accès à tous les contenus que je veux. Et grâce à mes 100 francs CFA, je vais aider les créateurs africains à générer de l'argent et à vivre de leur création.
Mais pour Teddy Kosoko, l'enjeu dépasse l'économie.
J'ai vécu deux guerres la première guerre que j'ai vécue, j'ai vu des enfants soldats venir chez nous et tout casser. Et je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi ils sont devenus des enfants soldats. Quand tu travailles, quand tu as un emploi, tu vas pas prendre les armes, c'est rare. Il faut qu'on arrive à avoir suffisamment de chaînes de valeur pour que les jeunes eux-mêmes génèrent des revenus et vivent de ça.
Derrière ces jeux, Teddy Kosoko défend un combat, bâtir une industrie capable de créer des emplois, car stabiliser les sociétés passe aussi par là.
Christina Okello pour notre reportage Afrique que vous retrouvez sur RFI.fr et notre appli Pure Radio. C'était lundi et mardi dernier à Garoua, dans le nord du Cameroun et le bassin cotonnier du pays, l'Assemblée Générale de l'APROCA, l'Association des Producteurs de Coton Africain, qui célèbre cette année ses 20 ans d'existence. Présente dans 15 pays du continent, l'APROCA a su devenir un acteur incontournable de la filière en défendant les intérêts de plus de 2 millions de producteurs répartis dans plus de 30 000 coopératives. À Garoua, quelques 300 participants de 8 pays étaient réunis pour deux jours d'échange pour dresser l'état des lieux de deux décennies de travail et surtout débattre de la feuille de route pour les 10 prochaines années. Reportage Charlotte Cosset.
Dans 10 ans, qu'est-ce que nous on veut ?
Premier grand objectif, une meilleure professionnalisation des cotonculteurs pour tirer le meilleur parti de leur activité. Pour cela, l'APROCA aimerait notamment voir renaître son université coton. Le président de la Fédération des producteurs du Togo, Koussoué Kouroufé, également président de l'APROCA.
Que ça soit l'affaire régionale pour qu'on mette en place l'université coton qui soit appuyée par les États, nos partenaires, l'UMOA et autres, pour que vraiment les enjeux ou bien les problèmes du coton soient traités là-bas. L'objectif, c'est ça, c'est pour former les chercheurs, les agronomes, les entomologistes, tout ce qui est du coton. Cette université coton, elle doit être la bienvenue vraiment pour réfléchir à long terme sur la production du coton.
Autre grand défi, l'adaptation des cotonculteurs au changement climatique. Pluie torrentielle, sécheresse prolongée, érosion des sols ou encore ensablement affectent les rendements. Face à cela, l'APROCA cherche des solutions et entend convaincre les autorités à suivre leur dynamique. Koussoué Kouroufé.
Au moins, même si on a le changement climatique, qu'on s'adapte à ça avec les chercheurs pour trouver les variétés qui sont résistantes au changement climatique, qui est un bon rendement. Aussi, pourquoi pas aller vers l'irrigation à contre-saison. Et c'est notre idée. Nous allons faire des plaidoyers auprès des gouvernements.
Autre priorité, mieux rémunérer et mieux protéger les cotonculteurs. Youssouf Djimé Sidibé, le secrétaire permanent de l'APROCA.
De plus en plus, nos partenaires techniques disent qu'il y a de l'argent du coton. Effectivement, il y a de l'argent. Mais les recettes du coton ne sont pas contrôlées par les producteurs. Vous savez, la filière coton, c'est une filière où il y a beaucoup d'acteurs. Et parmi l'ensemble des acteurs, c'est le producteur qui prend le plus grand risque. Mais c'est l'acteur le moins assuré et le moins payé également. Donc, à cela n'en tienne, nous nous battons pour pouvoir exister et pour pouvoir atteindre aussi nos objectifs qui est de permettre aux producteurs de vivre décemment de sa production.
Parmi les objets de bataille à venir de la PROCA, la mise en place d'une assurance climatique agricole pour les producteurs de coton. Charlotte Cosset, Garoua, RFI.
Afrique Économie est bientôt 8h en temps universel. RFI Matin se termine en musique, comme chaque jour. Dans notre choix musical ce matin, le retour du compositeur Zack Condon et son groupe Beyrouth. Bonjour Pierre Vallée.
Bonjour.
Avec un nouvel album intitulé A Study of Losses, une grande fresque faite de chansons et de passages instrumentaux qui répond à la commande d'un cirque suédois, Compagnie Girafe.
Oui, Beyrouth, un groupe à l'identité singulière, emmené, vous l'avez dit, par Zack Condon, qui fait à peu près tout dans le groupe. Il compose, il écrit, il arrange, et il propose des mélodies pas forcément complexes, mais toujours jolies, légères et éthérées, qu'il marie avec la puissance et l'exubérance d'une fanfare balkanique. Et c'est à ce genre de contraste qui vont donner toute l'originalité au groupe, comme l'utilisation d'un ukulélé au milieu d'un orchestre de mariachi. Beyrouth a ce talent de rendre homogène des mélanges qui ne le sont pas forcément, mais qui produisent une sonorité immédiatement reconnaissable.
Well, it's been a long time now since I've seen you smile.
Exemple avec ce morceau, Nantes, sorti en 2007 sur son deuxième album, qui, même si vous ne connaissez pas forcément l'auteur, vous rappelle quelque chose et vous donne l'impression de connaître déjà le morceau.
On est au début des années 2000 et tout va bien alors pour le groupe.
Oui, le succès est mondial, le groupe est jeune, les musiciens n'ont même pas 25 ans, ils sont très sollicités, ils ne refusent aucun engagement et le résultat c'est qu'ils passent leur vie entre les salles de concert et les aéroports de Rio à Tokyo en passant par Milan.
Et cette belle mécanique va s'enrayer pour Beyrouth.
Oui, parce que ce rythme est épuisant, Zack Condon a peur de l'avion, on imagine le calvaire. Il se retrouve avec une procédure de divorce sur le dos et pour couronner le tout, les médecins lui diagnostiquent une laryngite aiguë qui pourrait l'empêcher de chanter définitivement. Et donc un matin, en Australie, ça ne loupe pas, il se retrouve complètement bloqué au lit, dépression sévère qui l'emmène à l'hôpital et on n'entend plus parler de lui.
Heureusement, Pierre, après quelques années, Beyrouth revient.
Oui, en 2023, Zack Condon est soigné déjà, il a retrouvé l'amour, et puis il se pose dans les îles Vestepalen, en Norvège, loin du tumulte et de l'agitation. Il se ménage, il enregistre un album seul, sur lequel il joue tous les instruments. Et puis, en 2024, il accepte la proposition d'un cirque suédois, Compagnie Girafe, spécialisé dans l'acrobatie poétique, qui lui demande d'écrire la musique de son nouveau spectacle, A Study of Losses, un inventaire de choses perdues. Et le résultat, c'est ce disque qui vient de sortir, où l'on retrouve tous les marqueurs de la musique de Beyrouth, les fans ne seront pas déçus, mais sur lequel il innove aussi, puisqu'il s'inspire cette fois de la musique baroque. Après les fanfares balkaniques et les mariachis, c'est un petit peu surprenant, mais cela souligne surtout à quel point Beyrouth a l'art des assemblages inattendus.
Where did you go?
extrait du nouvel album de Beyrouth, Study of Losses. C'était votre choix musical. Merci Pierre Vallée.
Merci Julien.
Et bonne journée. Merci à vous qui nous avez suivis ce matin sur RFI Matin. Merci à Christophe Pernet à la réalisation de ces 3 heures. Et bonjour Juan Gomez.
Bonjour Julien Coquelroem. Bonjour à toutes et à tous.
Au programme d'appel sur l'actualité aujourd'hui.
Nous commencerons comme tous les matins avec les questions sur l'actualité. Ce matin, on nous interpelle sur la fin d'un secret de Polichinelle. La présence de soldats nord-coréens, ça y est, c'est confirmé, aux côtés des troupes russes face à l'Ukraine. Des questions également sur l'initiative du roi du Maroc pour permettre au Mali, au Burkina Faso, au Niger d'accéder à l'océan Atlantique. Et on nous pose également des questions après le pétage de plomb de Rudiger lors de la finale de la Coupe d'Espagne entre le Real et le Barça. Voilà un aperçu des 30 prochaines minutes. À demain, Julien.
À demain, Juan.
Dans moins de 2 minutes, le journal.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur le thème d'aujourd'hui.
Émission Questions de femmes, nous parlons de la prise en charge et de la prévention de l'asthme, une maladie respiratoire chronique qui concerne tous les âges.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Du 14 au 24 mai, la quinzaine des cinéastes revient au Festival de Cannes pour sa 57e édition. La quinzaine, c'est une sélection de 30 films du monde entier ouverte au public pour fêter le cinéma dans toute sa diversité. Au programme, projection de courts et longs métrages, le choix du public et une carte blanche spéciale comédie avec Alain Chabat en invité spécial. La quinzaine des cinéastes du 14 au 24 mai. Plus d'informations sur quinzaine-cinéastes.fr en partenariat avec RFI.
Le goût du monde, Clémence Denavy.
Elle a le goût et le parfum du Cambodge et de la cuisine de sa mère. Cette pâte de citronnelle, de galanga frais, de la racine camphrée, de kéfir et de curcuma mêlée. Bhopa la cuisine pour rentrer chez elle à Phnom Penh 50 ans après l'avoir fui. En cuisinant, elle donne voix à ceux qui ne sont plus. Bhopa raconte ce dimanche à 11h30 en temps universel.
Le goût du monde avec Clémence Denavy sur RFI et aussi en podcast sur RFI.fr.